Bonsoir. Voilà, après la fraîcheur des deux cours derniers sur la vie secrète de l'embryon, nous allons plonger maintenant à la veille de Noël dans une famille profondément pathogène, pathologique, dysfonctionnelle. C'est un petit peu une descente aux enfers. Voilà. Je vous lis le texte. Je prends, donc, selon l'Évangile, selon saint Marc, chapitre 6, versets 17 à 29. Toujours dans un français proche, cette fois-ci, du grec, puisque les Évangiles ont été écrits en grec. Lui, Hérode, ayant envoyé des gardes, avait saisi Jean et l'avait lié en prison en raison d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé. Donc, vous voyez, hein, je dois reculer un petit peu. Je vous ai mis ici un schéma de cette famille. Tout de suite, je l'ai introduit, comme ça vous pouvez vous y retrouver. Nous avons tous ces renseignements grâce à l'historien Flavius Joseph. Donc, vous aviez l'ancêtre là, Hérode le Grand, de sinistre mémoire, qui a eu au moins 8 épouses légitimes. J'en ai mis que 4, parce que le tableau n'était pas assez grand. D'accord ? Voilà. Alors, cet homme a eu notamment Aristobule IV, Hérode Philippe, Hérode Antipas. Aristobule est le père d'Hérodiade, ça va? Donc, Hérode Philippe est le demi-oncle, hein, puisque c'est avec 4 épouses différentes. Vous me suivez? Alors, donc ça c'est le mari légitime, si on peut dire. Et Hérode Antipas, c'est un autre demi-oncle, qui est l'homme avec lequel elle vit, comme on dit aujourd'hui, dans la forteresse de Macéronte, qui est une sorte de grand coffre-fort que Hérode le Grand avait construit pour garder ses trésors et ses gens. Voilà. Je parlerai d'Hérode Philippe II plus tard, qui deviendra le mari de Salomé. Ça, vous avez tout de suite vu avec ce schéma, s'il y en a certains qui sont psychologue ou psychiatre parmi vous, il ne faut pas être psychologue ou psychiatre, vous voyez que c'est une famille où les barrières de génération et les barrières de sang ne sont pas respectées. Et donc c'est une famille où règne une grande confusion. Qui dit confusion dans la Bible, mais pas simplement dans la Bible, partout, c'est une loi humaine, dit violence. Donc, lui, Hérode, donc c'est Hérode Antipas dont il s'agit, ayant envoyé des gardes, avait saisi Jean, c'est de Jean-Baptiste dont il s'agit, et l'avait lié en prison en raison d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère. Vous suivez au tableau, hein? Donc, la femme de Philippe, en fait, son demi-frère. Parce qu'il l'avait épousée. Car Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Or, Hérodiade lui gardait rancune et voulait le tuer. Elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le sachant homme juste et saint, et il protégeait. En l'ayant entendu, il était beaucoup embarrassé et il l'entendait avec plaisir. C'est un personnage un peu ambigu. Était arrivé un jour favorable lorsque Hérode, pour son anniversaire, fit un festin pour ses notables, ses officiers et les premiers de Galilée. Comme sa fille, celle d'Hérodiade, intéressant ça, hein, comme sa fille, c'est le texte grec qui dit, hein, sa fille, puis celle d'Hérodiade, hein, est-ce que c'est vraiment sa fille? Bah, il a épousé sa mère, mais hein, sa fille, celle d'Hérodiade, tout le drame est là-dedans, hein, dans cette petite cette façon de présenter et, la fille, donc Salomé, hein, dont on ignore le nom, on ne connaît pas son nom. Dans le texte biblique. Alors vous allez me dire comment est-ce que je l'ai appelé Salomé, mais c'est parce que c'est l'historien Flavius Joseph qui raconte aussi cet épisode qui avait fait scandale à l'époque, hein, qui avait vraiment scandalisé l'époque. Hein. Non pas la décapitation de Jean-Baptiste, mais le fait que Hérode Antipas était allé à Rome et avait chippé la femme de son frère, ou plutôt Hérodiade, elle avait été séduite par Hérode Antipas et aussi le pouvoir effectif qu'il avait comparé à son mari qui était un peu plus falot. Et bon, elle l'avait suivi, elle lui avait mis le grappin dessus. Ou plutôt les deux à la fois, d'accord ? Ça, c'est Flavius Joseph, c'est pas Saint-Marc qui nous raconte. Je ferai souvent référence à Flavius Joseph parce qu'il nous donne le contexte et il nous donne la petite histoire, si vous voulez. Donc, comme sa fille, celle d'Hérodiade, était entrée et avait dansé, elle plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Il jura beaucoup, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. » Comment est-ce que va réagir Salomé ? Est-ce qu'elle répond tout de suite ? Non. Sortant, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Celle-ci dit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Et, rentrant aussitôt, avec hâte, auprès du roi, elle lui demanda en disant, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » De Jean-Baptiste. Le roi, devenu tout triste en raison du serment et de ceux qui étaient à table, ne voulut pas la repousser. Aussitôt, le roi, envoyant un garde, lui ordonna d'amener sa tête et s'éloignant, il le décapita dans la prison et amena sa tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Ses disciples, ayant entendu, vinrent et enlevèrent son cadavre et le déposèrent dans un monument. Alors, vous allez me dire pourquoi on a un cours sur la famille, pourquoi raconter des histoires pareilles, d'accord ? C'est vrai. En réalité, pendant longtemps, j'ai enseigné sur les questions du mariage et de la famille quasi exclusivement à partir du texte merveilleux de Jean-Paul II, son exhortation apostolique de 1981, intitulé « Familiaris Consortio », qui est un joyau à la fois philosophique et théologique. Dans l'histoire de l'Église, c'est sans doute le document le plus abouti sur les questions de la famille et du mariage. Et donc, j'ai enseigné, et je continue à enseigner joyeusement ce très grand texte. Mais c'est un texte qui fait peut-être pas pleinement droit, en tout cas, si il le fait droit théoriquement, mais il ne raconte pas une histoire. Il propose une vision, une réflexion sur la famille, telle qu'elle est dans le plan de Dieu. Ici, un jour j'étais en vacances, tranquille, il y avait ça à la messe le dimanche, ce texte-là, et j'étais fasciné par le fait que aucune des relations familiales fonctionne correctement. Et on est dans un anti-modèle familial, si vous voulez. Et donc je me suis dit, mais comment est-ce que Dieu est à l'œuvre à l'intérieur de ce type de configuration ? Essayons de recueillir la lumière nocturne qui émane de cette forteresse, puisque ces personnes sont dans une forteresse, pour pouvoir... qu'est-ce que peut nous enseigner ce texte sur la famille, voyez ? Encore une fois, l'Écriture ne nous raconte pas, ne nous donne pas des théories sur l'Écriture sainte, aussi magnifique soit-elle, et il en faut. Mais elle nous raconte des histoires où on voit Dieu à l'œuvre. Et là, on est presque dans une situation désespérée, ou en tout cas désespérante. En tout cas, on peut être tenté sur l'espérance, vu le lourd passé familial. Et l'autre soir, j'étais avec une série de psychiatres, on discutait de ce texte, et il y en a un qui a dit, je crois entendre certains patients de mon cabinet, hein, avec ce récit. Bon. Alors, donc, je vais étudier ce texte avec vous. Évidemment, il y a plein de d'enseignement sur ce texte-là, mais je vais lui poser une question. Comme à Abraham, il y avait beaucoup d'enseignements possibles, beaucoup de... Mais je vais lui poser une question. Je vais lui poser comme question, mais que nous enseignes-tu sur la famille, et plus précisément sur Salomé? J'ai pris le parti de choisir Salomé. Je rentre dans le récit à partir de Salomé. Les exégètes de métier diront que c'est Hérodiade qui structure le récit, sa mère. D'accord. Tout à fait légitime. Personnellement, je choisis la porte d'entrée de Salomé. D'accord. Alors, je voudrais dans un premier temps, mais comme nous n'avons qu'une heure, enfin, toute une heure, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, je voudrais voir, étudier d'où vient la violence. Du côté, je vais essayer d'étudier les différentes relations. Tout d'abord, la relation d'Hérodiade avec sa fille. Première chose que je vais essayer de scruter avec vous, Hérodiade et sa fille. Hérodiade, comme dit le psaume, a une arme tranchante. Par quatre mots lapidaires, elle commande à son enfant la tête de Jean, celui qu'il baptise, qui baptise. Bientôt réduit au silence, pour toujours, Jean ne pourra plus faire retentir la parole de vie. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Alors, quand on y réfléchit, c'est une terrible maltraitance qu'une mère peut avoir vis-à-vis de sa fille. C'est une maltraitance d'ordre spirituel. Les maltraitances ne sont pas simplement d'ordre physique. Elles sont aussi potentiellement d'ordre spirituel. Elle ordonne non seulement la mise à mort d'un innocent, ce qui est déjà terrifiant pour une mère, qui a sans doute, peut-être que certaines théories féministes diront que je suis dans les stéréotypes de genre, etc. Laissons ça de côté. Hein, mais je pense qu'une mère a une sensibilité particulière à la défense de l'innocent. Il y a l'homme aussi, mais il y a là... Eh bien, elle ordonne bien davantage la mise à mort d'un innocent. Elle enjoint sa fille de nier le principe même sur lequel devrait se fonder leur vie familiale. Et donc, sa propre vie d'enfant. Elle l'entraîne dans une sorte de mensonge et de déni de réalité. Elle l'enferme dans la fiction fondatrice de leurs rapports familiaux, la pseudo-légitimité de l'alliance matrimoniale entre elle-même et le frère de son mari. Donc, si vous voulez, elle allie violence physique et violence spirituelle, foulant allègrement les droits les plus fondamentaux et les plus inaliables de sa fille. Car un enfant ne possède pas simplement le droit d'être vêtu, nourri, abrité, il doit également être respecté et promu dans son identité spirituelle. Pour grandir et s'épanouir, la jeune fille a besoin de vérité comme de pain, sa mère la lui refuse. Bien plus, elle la manipule en la rendant directement complice de l'assassinat du gardien de sa propre origine. Si vous voulez, dans cette famille, où il y a une sorte de mythe fondateur, où le père a été abandonné, et le père a sans doute aussi abandonné, hein, mais en tout cas le père a été mis hors jeu. Il n'y a plus que Jean-Baptiste pour rappeler cela. Et en demandant à sa fille de réclamer la tête de Jean-Baptiste, Hérodiade mine, si vous voulez, la fondation radicale de l'existence de sa fille. Parce que sa fille a aussi un rapport avec son père, Hérode Philippe. D'accord ? Il y a... Durant ce banquet angoissant, Hérodiade ne se comporte absolument pas en mère. Les mères, écrit le pape François, sont l'antidote le plus fort contre la propagation de l'individualisme égoïste. Être une mère ne signifie pas seulement mettre au monde un enfant, c'est aussi un choix de vie, Que choisit une mère? Quel est le choix de vie d'une mère? Son choix de vie est de donner la vie, et ce choix est grand et beau. Les mères transmettent souvent aussi le sens le plus profond de la pratique religieuse. D'accord? Donc, il y a une captation, une mise. Hérodiade met la main sur sa fille. Voyons maintenant la relation entre Hérodiade et Hérode. Le contenu du cadeau, entre guillemets, qu'Hérodiade arrache à Hérode par l'intermédiaire de son enfant est sans doute aussi révélateur du lien qui l'unit à son compagnon. Apparemment, cette femme n'a pas une maîtrise totale sur le roi et sa maison. Elle ne peut accomplir ses noirs desseins sans sa permission. En fait, on voit Hérodiade comme une femme qui dépend totalement de Hérode et qui, donc, pour parvenir à sa fin, un petit peu comme Jézabel, l'épouse du roi Achab, est obligée de manipuler, si vous voulez, ce qui en dit long sur leur relation de couple. Hérodiade demande à son compagnon, son compagnon devenu légitime par la loi, d'assassiner celui qui rappelle au nom de Dieu la vérité sur l'amour, le mariage et la famille. Tant que cet homme vivra, elle le sent bien, le cœur du roi lui échappera, lui qui craint Jean, qui le protège, qui est embarrassé et qui l'entend avec plaisir. Verset 20. Je me suis demandé, mais... Enfin, c'est toujours bon de se mettre un peu dans la peau des personnages. Hein. Elle pouvait tout obtenir. Pourquoi est-ce que Salomé demande la tête de cet homme qui est en prison avec sans doute avec des fers, avec, on ne sait pas comment il est, mais en tout cas hein, de ce pauvre air en prison. Il vaut plus que la moitié d'un royaume. Pourquoi? Parce que il apparaît comme un obstacle entre le roi et Hérodiade. Parce que si le roi Hérode Antipas remercie, répudie son épouse, enfin Hérodiade, eh bien, à ce moment-là, elle perd tout. Donc, vous voyez ce que je veux dire? La valeur de Jean-Baptiste est beaucoup plus qu'un demi-royaume. Par ailleurs, d'un point de vue strictement historique, mais ça, le texte ici ne le dit pas, de Marc, il semble que Hérodiade n'a pas épousé d'abord Hérode Antipas par amour. Comme beaucoup d'unions princières de l'époque, l'intérêt politique prime sur toute autre considération. En se mariant avec la femme de son frère Philippe, Hérode Antipas s'alliait à une descendance directe de Marianne l'Asmonienne, enfin c'est la femme A. En fait, vous voyez, ici c'est la première épouse que d'ailleurs Hérode a fait assassiner, hein, comme il a fait assassiner Hérode le Grand. Il a fait assassiner sa première épouse, comme il a fait assassiner aussi Aristobule et encore quelques-uns. Bon. Donc le calcul politique aussi d'Hérode Antipas, c'était de pouvoir mettre un peu la main, en tout cas d'augmenter son pouvoir en s'alliant avec celle qui était la mieux placée dans la lignée des Hérodes. D'accord ? Ce sont les historiens qui nous le disent. Et Hérodiade aussi semblait avoir suivi Hérode Antipas dans le but d'accroître aussi sa puissance, puisque Hérode Antipas, c'était un roi qui régnait, tandis que Hérode Philippe était un prince de cour, si vous voulez. Donc, il y a beaucoup de calculs hein, là-dedans. Ceci étant dit, c'est un des grands biens du XXe siècle d'allier amour et mariage, en tout cas, d'y tendre. Mais à l'époque, on ne se mariait pas avant tout par amour. On se mariait avant tout pour la descendance et pour la préservation et l'accroissement du patrimoine. Enfin, s'il y avait un peu d'amour en plus, ça va être bien, hein, ce sont nos idées modernes de ce point de vue-là. Et c'est une belle évolution, même si aujourd'hui, on entend peut-être le mot amour un peu n'importe comment. D'accord ? Alors, relation d'Hérodiade avec sa fille, relation d'Hérodiade avec Hérode, Antipas, relation d'Hérodiade avec elle-même. Or, nous dit le verset 19, Hérodiade gardait rancune envers Jean-Baptiste et voulait le tuer, elle ne le pouvait pas. Elle est de ce point de vue-là l'antitype de Marie, vous voyez ? Marie qui médite dans son cœur et qui engendre le prince de la vie. D'accord ? Et ici, elle médite le mal, garde rancune, vous voyez ? On sait ce que c'est parfois garder rancune, quoi. On attend le moment propice pour, à un moment donné, engendrer la mort. Il y a là un parallèle saisissant. Comme l'écrit saint Augustin, cette femme exécrable, saint Augustin, il ne faut pas trop le lire sur Hérode et Hérodiade, il est vraiment terrifiant. Il est fâché contre elle. Non. Je dois vous avouer que personnellement, plus j'ai travaillé Salomé, plus je me suis mis à la trouver fascinante. Mais ça, c'est vrai, on s'attache à des personnages. Hein. Et en même temps, plus je me suis rendu compte à quel point elle était à la fois saisie dans une dynamique de perversion, en fait, n'ayons pas peur du mot, au sens étymologique du terme, perverterée, donc tournée complètement, enfin, dans le mauvais sens, et qu'elle était elle-même actrice. Elle n'était pas simplement victime, mais elle était actrice du mal. Cette femme exécrable, écrit saint Augustin, avait conçu la haine quand vint le temps de la parturition, elle enfanta une fille, la danseuse. Pourquoi est-elle emportée par une telle rage meurtrière? C'est la question qu'on peut se poser, bien sûr. On décide d'être dans la rage, mais en même temps, on est saisi par la rage. On décide de faire le mal, et en même temps, c'est le mal qui nous possède. Il y a les deux sens. Il faut entendre aussi, il faut essayer d'imaginer ce que j'essaie de me faire. Imaginez la petite Hérodiade dans le palais d'Aristobule et de son grand-père qui était complètement malade, quoi. D'accord ? C'était une famille épouvantable, vraiment. Cruelle, débauchée, les barrières de génération sont pas meurtrières. Donc vous vous en rendez compte, son grand-père a assassiné sa grand-mère, donc sa femme, quoi, hein, la première femme, Marianne Lasmonienne, pour des questions de pouvoir et de suspicion, ainsi que son père, hein, à Hérodiade, donc Aristobule. Voilà, plein de gens aussi autour. Donc c'est une rescapée, si vous voulez. Elle a dû se construire dans un univers profondément pathogène. Elle a dû naviguer, elle a dû se camoufler. Enfant, elle a donc été victime de bien des violences et devenue adulte, elle reproduit le système relationnel qu'elle a toujours connu. Par ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, il semble que sa situation dans la forteresse d'Hérode n'est pas aussi assurée qu'elle en ait l'air. Elle vit dans une certaine insécurité. Est-ce qu'il ne risque pas de me répudier? Dans ce cas, j'ai tout perdu. Tout. Où irai-je? Bien qu'elle soit reine, son existence se déroule dans une insécurité foncière. Terrible insécurité. Et peut-être encore un peu plus pour une femme que pour un homme. Pour lutter contre ces sentiments ravageurs d'insécurité et se rassurer, peut-elle, éprouve-t-elle l'impression, l'irrépressible besoin de tirer les ficelles, d'imposer ses désirs, de tout régenter? Et puis alors, il y a évidemment cette confusion incestuelle et incestueuse qui n'aide pas à l'accession à sa propre identité et qui crée de la violence en soi. Et dans cette situation-là, elle peut craindre que sa fille, Salomé, lui chippe son mari. Elle plaît à Hérode et Antipas. Oui. Vous allez me dire, non, quand même, il y a une barrière de génération. Non. Enfin, oui, il y a une barrière de génération, mais on est dans une logique qui est un peu folle. Hein. D'ailleurs, plus tard, elle épousera son oncle Hérode Philippe II, qui est mort en 34, donc Hérodiade est morte en 72. Donc vous voyez, puis elle épousera son cousin parce qu'il ne lui donnait pas de descendance, il devait peut-être être trop âgé. Et enfin, ça n'en sait rien. Mais, et donc, vous voyez, c'est. Sa fille est peut-être une rivale, hein? D'accord? Vous imaginez? Elle a épousé son amant, et puis son amant vient de promettre à sa fille la moitié du royaume, tellement qu'elle dansait bien. C'est pas très confortable, hein? Bon. Je prends un exemple qui peut être plus parlant, mais vous imaginez que si vous êtes marié, que votre mari offre à votre fille un bijou qui vaut 10 fois le bijou que vous portez vous-même, d'accord? Il y a quelque chose qui va pas, ça va? Bon, alors peut-être qu'il était un peu ivre parce que c'était un festin où il avait bien bu, etc. Enfin, in vino veritas aussi, hein, d'accord? Bon. Alors, voilà, donc il y a une violence terrible qui vient du côté de la mère. Une violence qui vient aussi du côté paternel, au sens large du terme. Vous savez qu'on se construit, enfin, on élabore notre personnalité, bien sûr en lien avec notre père de sang, mais aussi avec d'autres images paternelles. Voilà, alors, du côté de son père de sang, il y a sans doute un syndrome d'abandon que Salomé doit vivre. Peut-être aussi que Hérodiade, on voit ça dans certains divorces, a chargé une image très négative d'Hérode Philippe, en disant, mais ton père c'est un nul, il passe son temps dans les banquets à Rome, c'est un bon à rien, et tout, voilà, c'est pas un vrai. Il y a ça aussi, hein. Donc peut-être qu'une image très négative lui a été transmise par... C'est d'ailleurs nous n'avons pas vu, oui, nous avions vu ça par rapport aux enfants et le divorce, hein. C'est un des défis majeurs, hein, dans le divorce, c'est que les deux personnes qui ont divorcé l'un de l'autre n'empoisonnent pas une des deux sources de l'existence de leur enfant. Alors, il n'est pas dit ici dans le texte que ce soit le cas, mais c'est possible, oui. En tout cas, quelle image elle a de son père, hein, et puis par ailleurs, son père l'a peut-être de fait abandonné. En fait, il a peut-être été lâche, on n'en sait rien. Peut-être qu'Hérodiade a confisqué et sali la mémoire de cet homme. Bref, Salomé est sans père, ou du moins en manque de père. Avec aussi, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille, un enfant, je l'ai montré la fois passée, se sent toujours, d'une façon ou d'une autre, responsable, coupable de ce qui arrive à son père. Donc, et la culpabilité, quand elle est maltraitée, peut être source de violence, qui se tourne contre autrui, c'est le meilleur des cas. Je vous ai dit que j'aime bien de temps en temps voir des arrêts de bus qui sont massacrés, hein. Je n'ai pas dit ça.
Si,
hein. Il vaut mieux éviter ça. Hein. Mais il vaut mieux un punching ball dans une bonne salle de sport. Mais le vandalisme qu'il faut lutter, etc., est quand même une expression d'une violence qui ne se tourne pas contre la personne qui est extériorisée, qui est mal extériorisée. Hein. Mais, voilà. Alors, quelle est la relation d'Hérode Antipas avec la fille d'Hérodiade, autre figure paternelle, le mari de sa mère, qui est donc son beau-père, mais aussi son demi-oncle. En principe, il revient à Hérode Antipas d'exercer une certaine fonction paternelle envers Salomé, sans jamais se substituer à son père de sang. Ça, c'est la clé numéro un pour, d'après les psychologues, mais qui se comprend d'un point de vue anthropologique, pour être un bon beau-père, il convient de dire, ben voilà, je ne pourrai jamais remplacer ton père, hein,
je ne suis pas ton père, mais je ferai mon possible pour pouvoir t'éduquer comme si tu étais mon enfant, mais en respectant la place du père absent. Ce point-là est complètement décisif pour un beau-père. Bon. Or, le nouveau compagnon d'Hérodiade semble peu enclin à assumer cette responsabilité paternelle. Il est objectivement dans une position paternelle, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Nous avons quelques indications en ce sens, j'en ai déjà dit l'une ou l'autre. Sa fille, celle d'Hérodiade, au verset 22. Donc, il est sa fille, mais tout de suite, on glisse celle d'Hérodiade. Elle lui échappe continuellement pour aller vers sa mère. Tout le texte est... Peut-être que Salomé n'a jamais accepté comme père. Hein, ou en tout cas, ce n'est pas à ce niveau-là qu'elle veut se situer avec lui. Autre partie du verset, elle plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. Dans cette situation, le roi noue un rapport de courtisan avec Salomé. Tout comme les autres convives. C'était intéressant l'autre soir, donc avec ses psychiatres, il y a quelqu'un qui venait du monde du spectacle qui disait, mais en fait, dans le monde du spectacle, on parle d'un plateau de théâtre. Bientôt, la tête du Baptiste va arriver sur un plateau. Et en fait, Salomé entre sur le plateau en dansant. Et elle est offerte, en quelque sorte, aux convives qui la mangent des yeux. Voilà. Il y a une symbolique là derrière, qui a d'ailleurs inspiré beaucoup, beaucoup d'artistes de tous les temps. Entouré des gens pour fêter son anniversaire, Hérode, Antipas, oriente le désir de Salomé vers lui-même. Il se sert de sa puissance royale pour la séduire en public. En agissant ainsi, Hérode ne se comporte guère en beau-père, en oncle ou en roi, plus simplement en adulte responsable. Seul son bon plaisir compte. L'autre jour, en discutant avec Épicure, c'est vraiment. Il y a des clés d'interprétation œdipienne qui rentrent. Hein. Assez impressionnante. Il se fait raconter l'histoire d'un enfant de 5 ans qui a dit à sa maman : mais qui est le petit roi de sa maman ? Je ne vais pas raconter cette histoire.
Non.
Un soir, c'était trop mignon, 4 ans et demi, il y a un enfant qui arrive près de sa maman et qui dit : et c'est qui le petit roi de sa maman ? Et alors la maman répond avec beaucoup d'à-propos, c'est papa. Non, c'est moi. Non, toi tu es mon petit prince. Et alors, quand il a entendu ça, il a piqué une colère terrifiante. Terrifiante. Et je ne veux pas être ton petit prince, je veux être ton petit roi, etc., etc. Puis quand le mari est rentré, l'enfant est allé lui ouvrir la porte et il lui a dit tout ça, tout de go. Si tu veux, tu peux aller dormir dans la voiture. Alors, le père a dit pourquoi ? Si jamais il y a des voleurs. Oui, c'est l'inconscient qui joue. Et puis, je pourrais vous raconter vite. Mais alors, à table le soir, c'est trop drôle. À table le soir, il essaye d'ouvrir un pot de miel. Il n'arrive pas. Et puis il y a le père qui dit, si tu veux, je peux le faire. Non, je vais le faire. Il fait comme ça. Et puis après, il n'en peut plus. Et il crevait l'envie d'avoir le miel. Et puis il donne le pot à son père. Vas-y, t'es quand même le plus fort. Bon, alors, je vous raconte ces histoires-là. Mais on a, oui, je me souviens, un jour à Lyoté, j'avais parlé à un cours, j'avais parlé de Freud et sur le triangle oedipien. Et alors, il y a un étudiant qui avait dit, mais moi, j'ai pas vécu tout ça. Évidemment, tout se vit au niveau inconscient, d'accord ? Donc, cette rivalité, etc. Mais ce qui est précieux, c'est qu'à un certain moment, le père met une barrière, si vous voulez, hein, qui est un non structurant, vous voyez, et c'est tout à fait normal, et tout. Hein. Il avait aussi été dans le lit de sa mère. Et alors, sa mère lui dit, écoute, tu peux rester 3-4 minutes pour faire un câlin, mais après, tu vas dormir. Il ne voulait pas repartir du lit. Puis alors, il y a le mari qui est arrivé, et puis il a dit comme ça, il avait 5 ans, il a dit, c'est mon destin. Il est parti. Bon. Mais donc, vous voyez, c'est tout à fait normal, et c'est joyeux, et bon, c'est dur, mais c'est comme ça que il y a des frustrations qui sont structurantes, et si on n'a pas eu ce genre de frustration-là, c'est un danger très important pour l'avenir, vous voyez. Et là, Hérode, il a posé des interdits. En l'occurrence, c'était la mère qui posait des interdits, mais le père aussi, indirectement, comme époux de la mère, est reconnu comme tel, et voilà, participant à ça. Ou alors, une autre phrase qui lui dit, « Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. » Vous imaginez? Même Dieu n'a pas dit ça à Adam. Et Ève. Il a dit, « Je te donne tout, tu peux tout prendre. » Mais il y a un interdit structurant, et qui est en fait... l'interdit de l'inversion de l'arbre de dégénération et de la vie, enfin, d'un accès pas juste à la vie, vous voyez. Et là, Hérode d'Antipas dit, mais tu peux tout, je te donne tout, tu peux, même si tu me demandes de tuer, je tuerai. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa fille allait lui demander ça, quoi, hein, d'accord. Vous imaginez comme attitude irresponsable et anti-éducative. C'est terrifiant. Il se comporte absolument pas en père. Aucune frontière. Un des rôles du père et de la mère aussi, c'est de mettre une frontière. Et proposer un choix illimité à sa fille, c'est l'induire en tentation. Et c'est l'induire en tentation de toute puissance. Ainsi, Salomé était là en situation où elle peut donner libre cours à ses désirs les plus fous, quel que soit le prix à payer. Comment, dans ces conditions, pourrait-elle accéder à son identité, à sa subjectivité? Si ce petit garçon n'avait pas eu un interdit maternel clair et un interdit paternel aussi, hein, puisqu'ils ont fait ça ensemble, hein, il serait dans la confusion totale. Vous voyez ce que je veux dire, hein, et dans la violence. En l'entraînant dans un univers sans foi ni loi, Hérode ne permet pas à sa nièce de sortir d'elle-même et de l'immédiateté de ses besoins. Il la maintient dans l'indéterminé et le flou. Il ne l'aide guère à se socialiser. Souvenez-vous de ce que nous avons vu avec Abraham, hein, et l'éducation que Dieu donne par, ce que diraient les psychologues, la frustration, une série de frustrations qu'on dirait de façon philosophique et théologique par le manque, hein, par la promesse. Promettre, c'est pas donner tout de suite. Donc c'est creuser le désir. D'accord. Permettre au désir de se purifier. Quand Dieu donne, il donne toujours sous forme de promesse. Donc la parole du Père, au lieu d'édifier ici, entraîne dans la confusion. Alors, voilà, je passe, mais vous avez compris la difficulté du côté d'Hérode Antipas. Hein, il y en a d'autres. Hein, mais... Alors, une violence qui vient de la mère, premier point. Une violence qui vient des deux figures paternelles, deuxième point. Une violence qui vient aussi du côté social, troisième point. Pour se développer harmonieusement, un enfant a besoin non seulement d'un père et d'une mère, ou de personnes de remplacement, entre guillemets, quand ceux-ci viennent à faire défaut. On ne remplace jamais tout à fait un père ou une mère, autre chose. Mais il a également, un enfant a besoin également d'une société, avec ses relations de tous ordres, ses symboles, ses cadres, ses modèles, ses mythes fondateurs, ses principes et ses lois. Et plus il grandit, plus l'enfant a besoin, comme de pain, d'être mis en contact avec une réalité plus vaste que simplement le cercle familial. C'est absolument nécessaire pour que l'enfant puisse accéder, puis l'adolescent, le jeune, à plus que lui-même. Selon Jean-Marie Petitclerc, qui est un éducateur salésien, Trois milieux façonnent l'identité d'un jeune aujourd'hui, la famille, l'école et la rue. Cet environnement tripolaire l'aide ou devrait l'aider à se structurer en distinguant la sphère privée de la sphère publique avec ses gammes intermédiaires. Personnellement, je suis très sensible au respect de la sphère privée et de la sphère publique. Vous voyez, de pouvoir dire, ben oui, ça c'est la famille, ça c'est pas la famille, ce sont les amis. Et ça, c'est pas les amis, ce sont des connaissances. Vous voyez, de pouvoir bien distinguer les différents types de relations. Aujourd'hui, le présentateur de télévision devient l'ami de la famille. Voilà, Monsieur Riquier ou Grosse Tête, c'est un frère, c'est un ami, c'est un. J'exagère un peu en disant ça, mais y a une difficulté à faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de la famille et ce qui n'est pas de l'ordre de la famille. La fille d'Hérodiade est élevée à la cour, c'est son école, et passe son temps dans l'école couloir doré du palais, c'est la rue. En fait, tout est mélangé. Cette tripolarité n'est pas respectée. Sa famille, comme dans beaucoup de cours à l'époque et de toutes les époques, la famille se confond avec l'univers social et politique. Hein, le roi célèbre son anniversaire, non pas en famille. C'est bien, hein, de célébrer son anniversaire avec les grands du royaume. Vous voyez, un événement privé. Je ne pose pas un jugement de valeur, mais vous voyez, pour Salomé, les distinctions ne sont pas pleinement respectées. Et c'est un univers qui est assez barbare. Alors, vous allez me dire, enfin non, ce sont des gens qui sont assez cultivés, bien sûr, ce sont des notables qui ont tous fait, je ne sais pas moi, qui ont des positions intéressantes dans la société et tout et tout. Et d'ailleurs, le texte joue là-dessus, hein, ils apparaissent comme les gens les plus raffinés et les plus civilisés, mais en fait, ils ont une grande barbarie à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont des barbares et de l'intériorité et de la finesse spirituelle alors que Jean-Baptiste, qui est en prison, hein, qui n'a pas accès à tous ces mets délicats, aux arts, etc., c'est lui le vrai raffiné. Et c'est lui qui a le vrai raffinement, qui est le raffinement de l'intériorité. Les barbares notables sont d'ailleurs, ça c'était le père Hademakers qui me faisait remarquer, ils sont tous assis et ils mangent ensemble. Donc il y a une sorte de confusion qui ne respecte pas la loi juive. On fait qu'on ne peut pas mélanger les païens et les juifs. Oui. Mais tout ça est mélangé ensemble. Alors, c'est dans cet univers-là qu'arrive sur la scène, le plateau, notre chère Salomé. Elle maîtrise parfaitement bien l'art de la danse et des valeurs matérielles qui y sont. Le corps, l'élégance, la beauté, la sensualité, le rythme sont comme rassemblés, unifiés et spiritualisés par la danse. La danse, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le roi des arts. Il y a là une spiritualisation de toutes les valeurs auditives, la vision du corps, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Israël, il y a beaucoup de danses liturgiques qu'on retrouve aussi dans l'Église, dans certains rites, dans certaines coutumes. Je me souviens que j'avais été à New York, j'avais assisté à une messe avec tous les Africains, alors je devais me trémousser. C'était étonnant, hein, voilà, avec des enfants de cœur, avec le groupe qui dansait et tout. Hein. Mais c'était beau, profondément beau. Hein. Au Rwanda, après au moment de l'intériorisation, on reçoit vraiment l'Eucharistie, vous avez des danseuses qui arrivent, qui élèvent vraiment l'âme. Donc, la danse est avant tout quelque chose d'extraordinairement beau et digne. Et les réalités les plus belles, les plus dignes, les plus magnifiques peuvent être radicalement perverties. plus quelque chose est beau, plus on peut la pervertir. Okay. Alors, saint Augustin, je vous passe, vous pourrez, si ça vous amuse, le lire. Dans, oui, tout ce que je dis ici est dans le livre là, qui est en vente avec le texte des deux cours passés et le texte du cours prochain. Hein. Vous avez tous les avec les références, etc. Ça peut être des petits cadeaux pour Noël. Voilà. Donc, je vous laisse sur un point d'interrogation. Comment saint Augustin décrit-il les torsions, les circuits insensés, je reprends quelques-unes de ses expressions, que Salomé exécute dans la fluidité d'un tourbillon. Donc, elle évolue à l'intérieur, notre chère Salomé évolue à l'intérieur de deux systèmes qui sont pathogènes, celui de la famille, celui de la cour qui sert à la fois d'école et de rue. Comment voulez-vous qu'elle se construise dans ces trois nids relationnels qui sont plus que problématiques? Alors, je voudrais maintenant, il me reste 12 minutes, pour terminer. En essayant maintenant de rentrer un peu à l'intérieur de Salomé, mais je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais plutôt laisser, je vais simplement donner quelques éléments pour pouvoir, j'ai décrit les choses, maintenant il faudrait davantage voir comment le salut de Dieu est à l'œuvre dans cet univers douloureux. Alors, chez Salomé, on peut voir sans doute un manque de consistance personnelle. Elle est toujours définie, décrite comme la fille d'Hérodiade. On ne lui donne jamais de prénom. On ne l'appelle jamais par son prénom dans le texte. Alors, c'est peut-être que par économie, hein, on sait que Marc, l'évangéliste, a un souci d'économie. Mais voilà, c'est un petit... C'est une sorte d'adolescent peut-être invisible, qui justement essaie de se faire voir à travers la danse. Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Ben, peut-être pour se faire aimer de sa mère. Peut-être aussi pour protéger le système familial. Vous savez que ce qui distingue un système familial pathogène d'un système familial qui est porteur, sain, oui, disons le mot sain. Tous nos systèmes familiaux ont toujours des petits problèmes, hein, c'est normal, hein, il ne faut pas s'inquiéter. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai beaucoup travaillé le livre de Suzanne Forward, Parents toxiques, comment s'en libérer. Et c'est un peu violent comme titre, mais c'est très, très instructif. Hein. Mais donc, elle distingue les systèmes toxiques au niveau familial. Parents toxiques, comment s'en libérer. Donc, le système familial toxique, finalement créer des loyautés, alors il y a des conflits de loyauté, etc., des loyautés qui empêchent le jeune de fonder sa propre vie, en quelque sorte. Donc on n'existe que comme une pièce du système. Alors je note aussi que entre Salomé, il y a toute une série de rivalités, il y a plusieurs triangles. Le triangle Salomé, Hérode, Hérodiade. Hein, vous voyez que je vous en ai déjà parlé. Hein. Donc, elle veut plaire à sa mère. Et en même temps, elle veut peut-être supplanter sa mère aussi. Voyez, en tuant Jean-Baptiste. Elle veut plaire à sa mère. Il y a les deux. Hein. Elle veut plaire à sa mère en supprimant l'obstacle qui se dresse entre le roi et sa mère, Hérodiade, hein, parce que si jamais Hérodiade est répudiée, elle aussi, sa fille, risque de devoir partir avec sa mère et perdre tous ses privilèges. Donc il y a cet aspect-là, il y a le triangle de cette façon-là qui tout, mais aussi une volonté de supplanter sa mère, enfin, potentiellement. Triangle Salomé. Alors, il y a aussi, c'était mis en 1893, en scène par Oscar Wilde. Oh oui, alors là, beaucoup de poètes, Maurice Béjart a aussi fait un ballet sur Salomé. Enfin, c'est un thème de la littérature mondiale. Pourquoi? Parce que ça impacte très profondément l'être humain. Il y a aussi le triangle Salomé, Jean-Baptiste et Hérodiade. Jean-Baptiste qui est aussi une figure paternelle, inaccessible, incorruptible, qui, sur lequel aussi, alors là, les amis psychiatres, là, sont, on a réfléchi aussi à ce point-là, voient vraiment le Jean-Baptiste comme étant, au début ça m'étonnait un petit peu, mais qui a un désir de s'assimiler le Père, en quelque sorte. Mais bon, je ne rentre pas dans cette... ici, ce serait trop long. Hein. Voilà. En même temps, il y a un choix spirituel posé par Salomé. Donc, elle n'est pas simplement l'otage de sa mère. J'étais aussi frappé dans le texte, lorsqu'elle reçoit le cadeau, un cadeau empoisonné, c'est pas un cadeau, c'est un échange, en fait. Je te donne la moitié de mon royaume, mais en échange, tu me donnes toi, quoi. C'est pas un vrai cadeau. Hein. En fait, elle sort de la pièce... Elle va chez sa mère, et puis elle re-rentre dans la pièce. C'est comme si sa mère lui servait d'intériorité. D'abord, d'habitude, on rentre en soi-même. Si je ne sais pas moi, votre fille ou votre fils a un cadeau, vous n'allez pas vous emparer du cadeau de votre fils, vous ne voulez pas lui servir d'intériorité, vous allez l'aider à réfléchir, à élaborer une réponse intelligente et sensée. Hein. Mais là, Hérodiade sent. Sert en quelque sorte d'intériorité à sa fille. Mais en même temps, il y a une certaine consistance spirituelle aussi chez Salomé, et il y a vraiment un choix qui est posé, un choix de mort. Vous voyez, c'est Jean-Marie Petitclerc qui disait, lors d'une manifestation, il y avait une fille sur une barricade qui allait mettre du feu, allait mettre le feu à une voiture, et alors il lui a dit « Arrête !» Et la fille lui a répondu « Ah, mais tu ne te rends pas compte la galère dans laquelle je vis depuis des années, avec ma famille, etc. » Et Petit Clair lui a répondu « Oui, mais c'est toi qui tiens l'allumette. C'est toi qui tiens l'allumette. » Quand même, donc il ne faut pas trop vite nier la responsabilité de Salomé. Ou sinon, ce serait lui retirer le peu d'humanité qu'elle a. Enfin. Alors, point suivant. Après avoir vu planter le décor des différentes sources de violence, après avoir très rapidement énoncé quelques réalités sur Salomé elle-même, voyons maintenant comment j'ai 5 minutes pour ça, comment Dieu s'arrange avec cette histoire. D'abord, il envoie Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il dit les choses. Tiens, Dieu dit les choses, même si elles ne sont pas entendues. Dieu ne désespère pas. Il envoie Jean-Baptiste. Qui accuse? L'accusation est une bonne chose, hein, dans certains cas. L'accusation, c'est de dire, écoute, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une accusation d'ordre prophétique. Tout l'Ancien Testament est traversé de paroles d'accusation. Ici, il ne s'agit pas d'une parole de condamnation. La différence entre l'accusation, l'accusation est toujours finalisée, orientée à la conversion. Si Dieu désespérerait, il n'enverrait pas son prophète et son prophète n'accuserait pas. C'est une parole qui est envoyée et qui est susceptible, si elle est accueillie, de casser ce qui se passe, mais pour reconstruire quelque chose sur du solide, pour tous les partenaires. Tout le monde serait gagnant, même si dans un premier temps, il serait dépouillé. Alors, c'est une parole qui ne se contente pas d'être dite, elle est livrée jusqu'au bout. Jean-Baptiste donne sa vie pour cela. Hein? Et c'est une parole qui est plus puissante que la mort. La preuve, nous sommes tous ici dans cet auditoire en train de parler, et ce texte, à relent incestuel, travaille en nous. Et travaille des milliers de générations. Travaille l'imaginaire collectif. Ça, c'est au niveau littéraire. Mais au niveau de la foi, cette parole traverse la mort en Jésus. D'ailleurs, ce texte est vu, je n'ai pas le temps de le développer, mais comme un flashback. Hein. C'est Hérode qui rencontre Jésus, ou qui entend parler de Jésus, pour être plus précis, et qui pense que c'est Jean-Baptiste ressuscité. Et il se dit, mais est-ce que je ne l'ai pas tué, cet homme-là, hein. Et du coup, on raconte l'histoire. D'accord. C'est intéressant que ce récit est directement interprété à la lumière de la résurrection. Et il y a toute une série d'éléments dans le texte même qui montrent que cet épisode s'inscrit immédiatement dans la mort et la résurrection de Jésus, pas simplement par l'introduction d'Hérode qui se trompe et ne se trompe pas. C'est pas Jésus ressuscité, c'est pas Jean-Baptiste ressuscité, et en même temps, quelque part, oui aussi. Mais Jean-Baptiste, les termes qui sont utilisés pour la mort de Jean-Baptiste, qui est déposé dans un tombeau, ses disciples viennent le chercher, etc., sont les mêmes termes qui seront utilisés plus tard pour la passion de Jésus, qui lui aussi est déposé dans un tombeau. Enfin, il faudrait que je retrouve les textes. Hein. Pour Jésus, tous deux sont Jésus et Jean-Baptiste sont tous les deux saisis et mis en prison. Ce sont les mêmes termes, 6:17 et 14:65, 15:1. On veut les tuer, même terme, même expression, mais chacun est craint en tant que juste et saint. Sur chaque fois des mêmes termes. On les entend avec plaisir. On vient enlever leurs cadavres pour les mettre dans un tombeau. Donc, ce passage est codé. Les termes qui sont utilisés pour décrire la passion du Baptiste sont exactement les mêmes, et ce n'est pas un hasard. Parfois, ça peut être un hasard, un terme qui est utilisé. Mais là, il y en a, attendez que je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une bonne dizaine des expressions dans un tout petit passage de quelques versets. Ce n'est pas un hasard. C'est aussi une parole qui se déploie dans le temps et dans l'espace, puisque ça va déboucher plus tard sur un autre repas, non pas un repas, comme diraient les psychologues, repas cannibalique, mais le repas eucharistique. En tout cas, sa préfiguration à travers la multiplication des pains, où il y a aussi des paniers, des plats, etc., où Jésus dit « donnez-le vous-même », donc il donne un ordre, comme Hérode avait donné un ordre à ses gardes, mais ça joue en antifigure, si vous voulez. Donnez-leur vous-même à manger. Voilà. Conclusion. Si vous me permettez encore, trois minutes. Parce que c'est un terrible périple qu'on fait là. Hein. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Salomé dans les années qui suivent? Bon. Alors, si on interroge la tradition, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Il y en a qui imaginent Salomé avec un bijou serpent qui, tout d'un coup, le serpent se met vivant et se met à l'étrangler. D'autres, enfin bref, il est pendu, d'autres il est emmuré, d'autres. Alors, il y a une légende qui fait que. Vous savez que Hérode va perdre son trône suite à cette histoire-là, enfin, de répudiation de sa première épouse, parce que un des rois va lui faire la guerre, et puis Rome va le lâcher, et puis donc il va devoir se partir à l'est avec sa famille, exilé dans le Danube. Et la tradition légendaire raconte qu'elle se met à danser sur le Danube gelé. Elle danse. Et elle danse une danse très élégante des femmes de son pays qui ramassent les olives. Et vous voyez, il y a une sorte de. Et puis tout d'un coup, elle est reprise par les démons de son passé. Elle se remet à danser sa danse endiablée qui avait séduite son beau-père, Hérode Antipas. Et au moment où elle se met. Excusez-moi, c'est un peu glauque pour terminer. Mais au moment où elle se met à danser, crac, la glace tombe et sa tête reste coincée. Vous voyez ? Et elle continue à danser dans l'eau, sa diable en damnée, et la glace, avec le soleil qui donne dessus, est comme un immense plateau argenté. Vous voyez ? Bon. Bon, y a des tas de mises en scène comme ça, dont l'imaginaire collectif s'est saisi avec plus ou moins de bonheur. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quasi tous, Oscar Wilde aussi à sa manière, quasi tous condamnent à un moment ou à un autre notre chère Salomé à une mort. C'est une sorte de justice rétributive. Elle a fait ça, quelques années plus tard, elle subit ça. Je pourrais encore vous donner d'autres... voilà, ça suffit. Elle a la tête tranchée par son amoureux indifférent chez Jules Boissière. Elle se suicide avec le glaive du garde chez Charles-Henri Hirsch, chez Marguerite Emery. Enfin bref, voilà. Elle est exécutée par les soldats des Rhodes chez Oscar Wilde. Elle est emmurée dans une chambre d'auberge par Marcel Schaut. Enfin bref, voilà. Alors, Saint-Marc, lui, non, rien de tout cela. Il laisse tout ouvert. Il laisse tout ouvert, quoique notre brave Hérode et Antipas, là, dans le procès de Jésus, il ne va pas être... va pas avoir des réactions qui sont qui montrent un changement manifeste. C'est assez mal parti quand même. Enfin, il y a une non-condamnation totale de la fille d'Hérodiade qui, comme telle, disparaît du récit une fois Jean-Baptiste a donné sa vie. Donnant sa vie, le plus grand des enfants des hommes, je crois que c'est même le texte d'aujourd'hui de la liturgie, le plus grand des enfants des hommes donne sa vie, préparant ainsi et annonçant ainsi que le Christ donne sa vie pour tous les hommes, y compris pour toutes les Salomé, pour toutes les Hérodiades, pour tous les Hérodes, et toutes les personnes qui vivent à l'intérieur de systèmes. On pourrait parler jusqu'à un certain point de structure de péché, ça demanderait tout un dialogue, une réflexion théologique d'appliquer le terme de structure de péché à la famille. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de montrer que la parole de Dieu, l'évangile, ne raconte pas uniquement des belles histoires pour bien dormir le soir, mais au contraire, aussi pour bien dormir le soir, mais rentre dans les soubassements les plus sordides de notre humanité. Non pour la condamner, mais pour lui révéler ce qui ne fonctionne pas, puisque ce texte est toujours lu en 2015 et sera lu jusqu'à la fin des temps, pour révéler ce qui ne fonctionne pas et pour appeler à la vie, produisant soit la conversion, soit l'endurcissement. Quand il y a conversion, c'est le signe que la parole de Dieu est à l'œuvre. Quand il y a endurcissement, c'est aussi le signe que la parole de Dieu est à l'œuvre, puisque elle fait son travail et... Les différentes personnes se déterminent en liberté face à une parole qui invite à aller au-delà de simples réalités dans lesquelles parfois les familles sont engluées. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.